Lettre d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus. 14e partie. Le 10 août 1897. Chère Lucie, je viens de recevoir à l'instant tes 3 lettres du mois de juin, toutes celles de la famille, et c'est sous l'impression toujours aussi vive, aussi poignante, qu'évoque en moi tant de doux souvenirs, tant d'aussi épouvantables souffrances que je veux y répondre. Je te dirai encore une fois, d'abord, toute ma profonde affection, toute mon immense tendresse, toute mon admiration pour ton noble caractère. Je t'ouvrirai aussi toute mon âme et te dirai ton devoir, ton droit, ce droit que tu ne dois abandonner que devant la mort. Et ce droit, ce devoir imprescriptible, aussi bien pour mon pays que pour toi, que pour vous tous, c'est de vouloir la lumière pleine et entière sur cet horrible drame, c'est de vouloir sans faiblesse comme sans jactance, mais avec une énergie indomptable, que notre nom, le nom que portent nos chers enfants, soit lavé de cette horrible souillure. Et ce but, tu dois, vous devez l'atteindre en bon et vaillant Français qui souffre le martyre, mais qui, ni les uns ni les autres, quels qu'aient été les outrages, les amertumes, n'ont jamais oublié un seul instant leur devoir envers la patrie. Et le jour où la lumière sera faite, où toute la vérité sera découverte, et il faut qu'elle le soit, ni le temps, ni la patience, ni la volonté ne devant compter devant un but pareil. Eh bien, si je ne suis plus là, il t'appartiendra de laver ma mémoire de ce nouvel outrage aussi injuste que rien n'a jamais justifié. Et je le répète, quelles qu'aient été mes souffrances, si atroces qu'aient été les tortures, qui m'ont été infligées, tortures inoubliables, et que les passions qui égarent parfois les hommes peuvent seules excuser, je n'ai jamais oublié qu'au-dessus des hommes, qu'au-dessus de leurs passions, qu'au-dessus de leurs égarements, il y a la patrie. C'est à elle alors qu'il appartiendra d'être mon juge suprême. Être un honnête homme ne consiste pas seulement à ne pas être capable de voler 100 sous dans la poche de son voisin. Être un honnête homme, dis-je, c'est pouvoir toujours se mirer dans ce miroir qui n'oublie pas, qui voit tout, qui connaît tout. Pouvoir se mirer, en un mot, dans sa conscience, avec la certitude d'avoir toujours et partout fait son devoir. Cette certitude, je l'ai. Donc, chère et bonne Lucie, fais ton devoir courageusement, impitoyablement, en bonne et vaillante Française qui souffre le martyre, mais qui veut que le nom qu'elle porte, que portent ses enfants, soit lavé de cette épouvantable souillure. Il faut que la lumière soit faite, qu'elle soit éclatante. Le temps ne fait plus rien à l'affaire. D'ailleurs, je sais trop bien que les sentiments qui m'animent vous animent tous. Nous sommes communs à tous, ta chère famille comme à la mienne. Te parler des enfants, je ne le puis. D'ailleurs, je te connais trop bien pour douter un seul instant de la manière dont tu les élèves. Ne les quitte jamais, sois toujours avec eux de cœur et d'âme. Écoute-les toujours, quelque importune que puissent être leurs questions. Comme je te l'ai dit souvent, élever ses enfants ne consiste pas seulement à leur assurer la vie matérielle et même intellectuelle, mais à leur assurer aussi l'appui qu'ils doivent trouver auprès de leurs parents, la confiance que ceux-ci doivent leur inspirer, la certitude qu'ils doivent toujours avoir de savoir où épancher leur cœur, où trouver l'oubli de leur peine, de leur déboire, si petit, si naïf qu'ils paraissent parfois. Et, dans ces dernières lignes, Je voudrais encore mettre toute ma profonde affection pour toi, pour nos chers enfants, pour tes chers parents, pour vous tous enfin, tous ceux que j'aime du plus profond de mon cœur, pour tous nos amis dont je devine, dont je connais le dévouement inaltérable, te dire et te redire encore, courage et courage, que rien ne doit ébranler ta volonté, qu'au-dessus de ma vie plane le souci suprême, celui de l'honneur de mon nom, du nom que tu portes, que portent mes enfants. T'embraser du feu ardent qu'anime mon âme, feu qui ne s'éteindra qu'avec ma vie. Je t'embrasse du plus profond de mon cœur, de toutes mes forces, ainsi que mes chers et adorés enfants. Ton dévoué, Alfred. Mille baisers aux chers enfants encore et toujours. Tous mes souhaits de bonheur pour Marie et son cher mari. Tout autant de baisers pour tous mes chers frères et sœurs, pour Lucie et Henri. Le 4 septembre 1897. Chère Lucie, je viens de recevoir le courrier du mois de juillet. Tu me dis encore d'avoir la certitude de l'entière lumière. Cette certitude est dans mon âme. Elle s'inspire des droits qu'a tout homme de la demander, de la vouloir, quand il ne veut qu'une chose, la vérité. Tant que j'aurai la force de vivre dans une situation aussi inhumaine qu'imméritée, je t'écrirai donc pour t'animer de mon indomptable volonté. D'ailleurs, les dernières lettres que je t'ai écrites sont comme mon testament moral. Je t'y parlais d'abord de notre affection. Je t'y avouais aussi des défaillances physiques et cérébrales. Mais je t'y disais non moins énergiquement ton devoir, tout ton devoir. Cette grandeur d'âme que nous avons tous montrée, les uns comme les autres, qu'on ne se fasse nulle illusion, cette grandeur d'âme ne doit être ni de la faiblesse, ni de la jactance. Elle doit s'allier, au contraire, à une volonté chaque jour grandissante, grandissante à chaque heure du jour, pour marcher au but, la découverte de la vérité, de toute la vérité pour la France entière. Certes, parfois la blessure est par trop saignante, et le cœur se soulève, se révolte. Certes, souvent, épuisé comme je le suis, je m'effondre sous les coups de la massue, et je ne suis plus alors qu'un pauvre être humain d'agonie et de souffrance. Mais mon âme indomptée me relève, vibrant de douleur, d'énergie, d'implacable volonté devant ce que nous avons de plus précieux au monde, notre honneur, celui de nos enfants, le nôtre à tous. Et je me redresse encore pour jeter à tous le cri d'appel vibrant de l'homme qui ne demande, qui ne veut que de la justice, pour venir toujours et encore vous embraser tous du feu ardent qui anime mon âme, qui ne s'éteindra qu'avec ma vie. Moi, je ne vis que de ma fièvre depuis si longtemps, au jour le jour, fier quand j'ai gagné une longue journée de 24 heures. Je subis le sort sot et inutile du masque de fer, parce qu'on a toujours la même arrière-pensée. Je te l'ai dit franchement dans une de mes dernières lettres. Quant à toi, tu n'as à savoir ni ce que l'on dit, ni ce que l'on pense. Tu as à faire inflexiblement ton devoir, vouloir non moins inflexiblement ton droit, le droit de la justice et de la vérité. Oui, il faut que la lumière soit faite, je formule nettement ma pensée. Mais s'il y a dans cette horrible affaire d'autres intérêts que les nôtres, que nous n'avons jamais méconnus, il y a aussi les droits imprescriptibles de la justice et de la vérité. Il y a le devoir pour tous de mettre un terme à une situation aussi atroce, aussi imméritée, en respectant tous les intérêts. Je ne puis donc que souhaiter pour tous deux, pour tous, que cet effroyable, horrible et immérité martyr est enfin un terme. Maintenant, que puis-je apporter encore pour exprimer encore cette affection profonde, immense pour toi, pour nos enfants, pour exprimer mon affection pour tes chers parents, pour tous nos chers frères et sœurs, pour vous tous, enfin, qui souffrez cet effroyable et long martyre. Te parler longuement de moi, de toutes les petites choses, c'est inutile. Je le fais parfois malgré moi, car le cœur a des révoltes irrésistibles. L'amertume, quoi qu'on en veuille, monte du cœur aux lèvres quand on voit ainsi tout méconnaître, tout ce qui fait la vie noble et belle. Et certes, s'il ne s'agissait que de moi, de ma propre personne, il y a longtemps que j'eusse été chercher dans la paix de la tombe l'oubli de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, l'oubli de ce que je vois chaque jour. J'ai vécu pour te soutenir, vous soutenir tous de mon indomptable volonté, car il ne s'agissait plus là de ma vie, il s'agissait de mon honneur, de notre honneur à tous, de la vie de nos enfants. J'ai tout supporté sans fléchir, sans baisser la tête, j'ai étouffé mon cœur, je refraine chaque jour toutes les révoltes de l'être, réclamant toujours et encore à tous, sans lassitude, comme sans jactance, la vérité. Je souhaite cependant pour nous deux, pauvres aimés, pour tous, que les efforts, soit des uns, soit des autres, aboutissent bientôt, que le jour de la justice luise enfin pour nous tous, qui l'attendons depuis si longtemps. Chaque fois que je t'écris, je ne puis presque pas quitter la plume, non pour ce que j'ai à te dire, mais je vais te quitter de nouveau, pour de longs jours, ne vivant que par ta pensée, celle des enfants, de vous tous. Je termine cependant en t'embrassant ainsi que nos chers enfants, tes chers parents, tous nos chers frères et sœurs, en te serrant dans mes bras de toutes mes forces et en te répétant avec une énergie que rien n'ébranle, et tant que j'aurai souffle de vie, courage, courage et volonté. 1000 baisers encore, ton dévoué Alfred. Et pour tous, chers parents, chers frères et sœurs, du courage et une indomptable volonté que rien ne doit ébranler, que rien ne doit affaiblir. Le 2 octobre 1897. Ma chère Lucie, je viens de recevoir tes chères lettres du mois d'août, quelques-unes aussi de la famille. Je souhaite avec toi, pour nous tous, que le jour de la justice luise enfin, que nous apercevions enfin un terme à notre martyre aussi long qu'effroyable. Je t'ai d'ailleurs déjà dit, dans de longues lettres, que ni ma foi ni mon courage n'étaient, ne seraient jamais ébranlés, car d'une part, je sais que vous saurez tous remplir énergiquement votre devoir, vouloir non moins inflexiblement votre droit, le droit de la justice et de la vérité, que d'autre part, s'il est un devoir imprescriptible pour ma patrie, c'est d'apporter la pleine et éclatante lumière sur cette tragique histoire, de réparer cette effroyable erreur. En effet, bien souvent, autant que ma faiblesse d'homme me le permettait, car si l'on peut être stoïque devant la mort, et je l'ai appelé bien souvent de tous mes voeux, il est difficile de l'être à toutes les minutes d'une agonie aussi lente qu'imméritée. Je t'ai caché mes horribles détresses devant de tels supplices pour t'empêcher de faiblir, de plier à ton tour sous le poids de telles souffrances. Si depuis quelques mois je ne te cache plus rien, c'est que j'estime qu'il faut que tu sois toujours préparé à tout, puisant dans tes devoirs de mère que tu as à remplir héroïquement, invinciblement, la force de tout supporter d'un cœur ferme et vaillant, avec la volonté inébranlable de laver le nom que tu portes, que portent nos enfants, de cette infâme souillure. Maintenant, assez de tout cela, n'est-ce pas, chérie? Laissons à ceux qui les ont leurs craintes, leurs arrière-pensées. Si mon âme est toujours vaillante et le restera jusqu'au dernier souffle, tout est épuisé en moi. Le cœur gonflé a éclaté, non seulement de ces tortures passées, mais de te voir méconnaître à ce point. Le cerveau vacille et chancelle à la merci du moindre heurt, du moindre événement. D'ailleurs, comme je te l'ai déjà dit, mes longues lettres sont trop l'expression intime et profonde, aussi bien de mes sentiments que de mon immuable volonté, pour qu'il soit utile d'y revenir. Elles sont comme mon testament moral. Donc, ma chère Lucie, pour toi comme pour tous, il faut toujours faire votre devoir, vouloir votre droit, le droit de la justice et de la vérité, jusqu'à ce que la pleine lumière soit faite pour la France entière, et il faut qu'elle le soit, vivante ou morte, car comme le spectre de Banco, je sortirai de la tombe pour vous crier à tous, de toute mon âme, toujours et encore, courage et courage, pour rappeler à la patrie qui me supplicie ainsi, qui me sacrifie, j'ose le dire, car nul cerveau humain ne saurait résister d'une manière aussi prolongée à une situation pareille, et c'est un miracle que j'ai pu y résister jusqu'ici. Pour rappeler à la patrie qu'elle a un devoir à remplir, qui est d'apporter l'éclatante lumière sur cette tragique histoire, de réparer cette effroyable erreur qui dure depuis si longtemps. Donc, chérie, sois-en sûre, tu auras ton jour de rayonnante gloire, de joie suprême, soit par vos efforts, soit par ceux de la patrie qui remplira tous ses devoirs, et si je n'y suis pas, que veux-tu, chérie? Il y a des victimes d'État, et la situation est vraiment par trop dure, par trop forte, depuis le temps que je la supporte. Eh bien, Pierre me représentera. Je ne parlerai pas des enfants, je l'ai d'ailleurs déjà longuement fait dans mes lettres doux, et puis je te connais trop bien pour me faire quelques soucis à leur égard. Tu les embrasseras de toutes mes forces, de toute mon âme. Je te quitte, quoique ce me soit toujours une grande douleur de m'arracher d'auprès de toi, tellement est court et fugitif ce moment que je viens passer auprès de toi. Je t'embrasse comme je t'aime, de toutes mes forces, de toute la puissance de mon affection, ainsi que nos chers enfants. En te répétant encore courage et courage, en souhaitant aussi que tout cela ait enfin un terme. Ton dévoué, Alfred. Mes meilleurs baisers à tes chers parents, à tous les nôtres. Mes vœux de condoléances à Arthur et à Lucie. Je ne me sens pas le courage de leur écrire. Le 22 octobre 1897. Ma chère et bonne Lucie, si je n'écoutais que mon cœur, je t'écrirais à tout instant, à toute heure de la journée, car ma pensée ne peut se détacher de toi, de nos chers enfants, de tous. Mais ce ne serait que répéter l'expression de nos douleurs communes, et il n'est plus de mots pour rendre notre martyre si long. Dans les lettres que je t'ai écrites, je t'ai exprimé mes sentiments, ma volonté, que je sais être la tienne, la vôtre, indépendante de mes souffrances, de ma vie. Il y avait certes aussi des cris de douleur, car lorsqu'on souffre ainsi sans relâche, nuit et jour, plus encore pour toi, pour nos chers enfants, que pour moi, le cerveau s'embrase, et s'il ne suffisait pas déjà de mes tortures propres, le climat y suffirait à lui seul à cette époque. Le cœur a besoin aussi de se dégonfler, l'être humain de crier ses détresses, ses défaillances. Mais ne revenons pas sur tout cela. Tout ce que je veux te dire toujours, c'est que la lumière sur cette tragique histoire, tu dois la réclamer, la vouloir, la poursuivre inflexiblement. Sans jactance, sans passion, mais avec le sentiment inébranlable de ton droit, avec ton cœur d'épouse et de mère horriblement mutilé et blessé, avec une énergie et une volonté croissante chaque jour avec tes souffrances. Je veux donc simplement aujourd'hui, en attendant tes chères lettres, t'embrasser de tout mon cœur, de toutes mes forces, comme je t'aime, ainsi que nos adorés enfants. Souhaiter comme toujours que notre effroyable martyre ait enfin un terme, mais te répéter aussi toujours mille et mille fois, courage, mille baisers encore. Alfred. Le 4 novembre 1897. Ma chère et bonne Lucie, je viens à l'instant de recevoir tes lettres. Les paroles, ma bonne chérie, sont bien impuissantes à rendre tout ce que la vue de ta chère écriture réveille d'émotions poignantes dans mon cœur. Et cependant, ce sont les sentiments de puissante affection que cette émotion réveille en moi qui me donne la force d'attendre le jour suprême où la vérité sera enfin faite sur ce lugubre et terrible drame. Tes lettres respirent un tel sentiment de confiance qu'elles ont rasséréné mon cœur qui souffre tant pour toi, pour nos chers enfants. Tu me fais la recommandation, pauvre chérie, de ne plus chercher à penser, de ne plus chercher à comprendre. Oh, chercher à comprendre, je ne l'ai jamais fait, cela m'est impossible. Mais comment ne plus penser? Tout ce que je puis faire, c'est de chercher à attendre, comme je te l'ai dit, le jour suprême de la vérité. Dans ces derniers mois, je t'ai écrit de longues lettres où mon cœur trop gonflé s'est détendu. Que veux-tu? Depuis 3 ans, je me vois le jouet de tant d'événements auxquels je suis étranger, ne sortant pas de la règle de conduite absolue que je me suis imposée, que ma conscience de soldat loyal et dévoué à son pays m'a imposé d'une façon inéluctable, que, quoi qu'on en veuille, l'amertume monte du cœur aux lèvres, la colère vous prend parfois à la gorge et les cris de douleur s'échappent. Je m'étais bien juré, jadis, de ne jamais parler de moi, de fermer les yeux sur tout, ne pouvant avoir comme toi, comme tous, qu'une consolation suprême, celle de la vérité, de la pleine lumière. Mais la trop longue souffrance, une situation épouvantable, le climat qui à lui seul embrase le cerveau, si tout cela ne m'a jamais fait oublier aucun de mes devoirs, tout cela a fini par me mettre dans un état d'hérétisme cérébral et nerveux qui est terrible. Je comprends très bien aussi, ma bonne chérie, que tu ne puisses pas me donner de détails. Dans des affaires pareilles, où des intérêts graves sont en jeu, le silence est nécessaire, obligatoire. Je bavarde avec toi, quoique je n'ai rien à te dire, mais cela me fait du bien, repose mon cœur, détend mes nerfs. Vois-tu, souvent le cœur se crispe de douleurs poignantes quand je pense à toi, à nos enfants, et je me demande alors ce que j'ai bien pu commettre sur cette terre, pour que ceux que j'aime le plus, ceux pour qui je donnerais mon sang goutte à goutte, soient éprouvés par un pareil martyr. Mais même quand la coupe, trop pleine, déborde, c'est dans ta chère pensée, dans celle des enfants, pensées qui font vibrer et frémir tout mon être, qui l'exalte à sa plus haute puissance, que je puise encore la force de me relever, pour jeter le cri d'appel vibrant, de l'homme qui, pour lui, pour les siens, ne demande depuis si longtemps que de la justice, de la vérité, rien que de la vérité. Je t'ai d'ailleurs formulé nettement ma volonté, que je sais être la tienne, la vôtre, et que rien n'a jamais su abattre. C'est ce sentiment, associé à celui de tous mes devoirs, qui m'a fait vivre. C'est lui aussi qui m'a fait encore demander pour toi, pour tous, tous les concours, un effort plus puissant que jamais, de tous, dans une simple œuvre de justice et de réparation, en s'élevant au-dessus de toutes les questions de personnes, au-dessus de toutes les passions. Puis-je encore te parler de toute mon affection? C'est inutile, n'est-ce pas? Car tu la connais. Mais ce que je veux te dire encore, c'est que l'autre jour, je relisais toutes tes lettres pour passer quelques-unes de ces minutes trop longues auprès d'un cœur aimant, et un immense sentiment d'admiration s'élevait en moi pour ta dignité et ton courage. Si l'épreuve des grands malheurs est la pierre de touche des belles âmes, oh ma chérie, la tienne est une des plus belles et des plus nobles qu'il soit possible de rêver. Tu remercieras M de ces quelques mots. Tout ce que je pourrais lui dire est dans ton cœur comme dans le mien. Donc, ma chérie, toujours et encore courage, comme je te l'ai dit avant mon départ de France, il y a longtemps, hélas, bien longtemps. Nos personnes ne doivent être que tout à fait secondaires. Nos enfants sont l'avenir, il ne doit rester aucune tâche, il ne doit planer aucune ombre. Oh, pas la plus petite sur leur chère tête. Ceci doit tout dominer. Je t'embrasse, comme je t'aime, de toutes mes forces, ainsi que nos chers et adorés enfants. Ton dévoué, Alfred. Le 24 novembre 1897. Chère Lucie, je t'ai écrit de bien longues lettres tous ces mois-ci où mon cœur oppressé s'est épanché de toutes nos trop longues douleurs communes. Il est impossible aussi de se dégager toujours de son moi, de s'élever toujours au-dessus des souffrances de chaque minute. Il est impossible à tout mon être de ne pas frémir et hurler, même de douleur, à la pensée de tout ce que tu souffres, à la pensée de nos chers enfants. Et si je me relève encore et toujours, quand je tombe, c'est pour jeter le cri d'appel vibrant pour toi, pour eux. Si donc le corps, le cerveau, le cœur, tout est épuisé, l'âme est restée intangible, toujours aussi ardente, la volonté inébranlable, forte du droit de tout être humain à la justice et à la vérité, pour lui, pour les siens. Et le devoir de tous, c'est de concourir de tous leurs efforts, de tous leurs moyens, à cette simple mesure de justice et de réparation. C'est de mettre enfin un terme à cet épouvantable et trop long martyr de tant d'êtres humains. Je souhaite donc, ma bonne chérie, que notre effroyable supplice ait bientôt un terme. J'ai reçu dans le courant du mois les lettres de tes chers parents, de tous les nôtres. Je leur ai répondu. Mes meilleurs baisers à tous. Et pour toi, pour nos chers enfants, toute la tendresse de mon cœur, toute mon affection, toute ma pensée qui ne vous quitte pas un seul instant. Mille baisers encore. Alfred. Le 6 décembre 1897. Ma chère et bonne Lucie, je ne veux pas laisser partir le courrier sans t'écrire, pour te répéter toujours, il est vrai, les mêmes paroles. Comme je te l'ai dit depuis de longs mois, je ne vis que par une tension inouïe des nerfs, de la volonté, et c'est lorsque je succombe sous le poids de telles souffrances que ta pensée, celle des enfants, me font relever, vibrant de douleur, de volonté, devant ce que nous avons de plus précieux en ce monde, notre honneur, celui de nos enfants, le nôtre à tous, et que je jette encore le cri d'appel, vibrant, de l'homme qui, depuis le premier jour de ce lugubre drame, ne demande que la vérité. Il y a donc là une œuvre de justice qui plane au-dessus de toutes les passions qui s'impose à tous, et elle doit s'accomplir. Je souhaite cependant, ma bonne chérie, pour nous deux, qu'elle s'accomplisse enfin, que notre effroyable et trop long supplice ait enfin un terme. Je t'embrasse comme je t'aime, de toute la puissance de mon affection, ainsi que nos chers et adorés enfants. Ton dévoué, Alfred. Mes meilleurs baisers à tes chers parents, à tous les nôtres. Fin du 14e fichier. Des lettres d'un innocent, écrites par le capitaine Alfred Dreyfus.